Téhéran et Riyad se contactent. Des représentants de haut rang de l'Iran et de l'Arabie saoudite ont repris le cinquième cycle de pourparlers visant à réparer les liens troublés entre les deux voisins du Golfe Persique. L'agence iranienne Nour News, affiliée au Conseil suprême de sécurité nationale SNSC du pays, a rapporté samedi que le cinquième cycle de pourparlers entre les représentants iraniens et saoudiens s'était tenu dans la capitale irakienne, Bagdad, après la suspension des négociations en mars. Le cycle précédent avait été positif. Selon l'agence, les deux parties ont échangé des vues sur les principaux défis entravant la reprise des relations entre les deux pays. L'atmosphère positive de la récente rencontre a suscité l'espoir que les deux pays fassent un pas vers la reprise des relations. On s'attend à ce qu'une réunion conjointe entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays se tienne dans un proche avenir, lit-on dans un tweet. Nour News a également rapporté que le haut responsable de l'Irak et du sultanat d'Oman avait joué un rôle important dans l'organisation de réunions conjointes entre les représentants de haut rang de Téhéran et de Riyad. Les deux poids lourds du Moyen-Orient ont tenu quatre séries de pourparlers en Irak depuis avril dernier, dont une réunion en décembre sous l'administration du président Ebrahim Raisi, qui a pris ses fonctions à la mi-2021. Par ailleurs, selon un député iranien, l'Iran et l'Arabie saoudite s'apprêtent à raviver leurs relations mutuelles et à rouvrir leurs ambassades. L'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en janvier 2016 après que des manifestants iraniens furieux de l'exécution de l'éminent religieux chiite Sheikh Nimr Barer al-Nimr ont pris d'assaut son ambassade à Téhéran. Dans les années qui ont suivi, le royaume a poursuivi une politique étrangère conflictuelle envers la République islamique, mais il semble qu'il ait récemment changé de cap. Les deux voisins restent profondément divisés sur un ensemble de questions régionales, principalement la guerre destructrice menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Téhéran et Riyad ont tous deux laissé entendre que certains progrès avaient été réalisés lors de leur récent cycle de négociations. À l'issue de la présidentielle française, c'est l'OTAN qui gagne. L'atlantiste Macron gagne, remportant plus de 50% des voix, mais cette majorité est-elle réelle? Les manifs d'hier soir à Paris prouvent le contraire. Selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur, le président sortant Emmanuel Macron arrive en tête du second tour de l'élection présidentielle du 24 avril, devançant sa rivale Marine Le Pen. Le chef de l'État sortant remporte 58,54% des suffrages. Selon les estimations, une nette victoire tempérée par une abstention élevée, 28,01%. Il devient à 44 ans le premier président de la 5e République réélu hors cohabitation. Emmanuel Macron doit célébrer sa victoire au Champ de Mars face à la Tour Eiffel. La candidate du Rassemblement national a pour sa part réuni 41,46% des voix, soit environ 8 points de plus qu'en 2017, quand elle avait déjà affronté le même adversaire. 20 ans après l'émergence surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, 17,79% des voix, jamais la droite radicale ne s'est approchée à ce point du pouvoir sous la 5e République. Lors de son intervention après la défaite, Marine Le Pen a assuré qu'elle poursuivait son engagement pour la France et les Français et que son résultat représentait en lui-même une éclatante victoire. Les idées que nous représentons arrivent à des sommets, a-t-elle ajouté. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron, au second tour avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps, a-t-elle poursuivi. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, arrivé à la troisième place lors du premier tour, a estimé qu'Emmanuel Macron était le plus mal élu des présidents de la 5e République. Le chef de file de Reconquête, Éric Zemmour, a appelé le Bloc national à s'unir et à se rassembler pour les législatives. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie de continuer l'excellente coopération avec la France. Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui représente les États membres, s'est félicité que l'Union européenne puisse compter sur la France 5 ans de plus. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est quant à lui félicité de la réélection d'Emmanuel Macron, un résultat historique dans l'histoire de la Ve République, tout en se disant lucide sur le contexte politique. À la suite de l'impact cataclysmique du missile intercontinental russe Sarmat, un entonnoir de 20 mètres a été creusé sur le site d'essai. Les conséquences de l'utilisation du dernier missile balistique intercontinental russe Sarmat ont provoqué une vague de panique qui continue de balayer la Terre. À la suite d'un tir précis d'un missile balistique lourd Sarmat, ou plutôt de son ogive sans ogive, un énorme entonnoir s'est formé d'environ 20 mètres de diamètre et d'environ 8 mètres de profondeur. Sur la séquence vidéo présentée publiée par la chaîne de télévision russien, on peut voir les conséquences de l'impact direct d'un missile balistique intercontinental lourd Sarmat dans une zone donnée du terrain d'entraînement de Kourou. Un énorme entonnoir indique que s'il y avait des forces ennemies ou un objet stratégique important dans cette zone, il n'en resterait pratiquement plus rien. Dans le cas où le lourd ICBM Sarmat porterait une ogive, l'entonnoir s'étendrait certainement sur des centaines de mètres de diamètre et de dizaines de mètres de profondeur, puisque selon des données non officielles, la puissance totale des ogives de missiles est d'environ 7,5 mégatonnes en équivalent TNT. Les experts notent que, à en juger par les séquences vidéo, les ogives devaient certainement s'approcher de leur cible, bien que cette hypothèse ne puisse pas être confirmée pour le moment. Il reste à dire que les responsables de ce test expérimental ont assuré que le Sarmat n'atteignait pas sa vitesse hypersonique, bien qu'il ait été précédemment supposé que les blocs Sarmat seraient accélérés à des vitesses hypersoniques afin d'éviter la possibilité d'interception ennemie. L'ont-ils fait exprès. Dans son discours d'ouverture de la conférence 2022 du Boao Forum pour l'Asie, le président chinois Xi Jinping a proposé une initiative globale de sécurité afin de stopper la seconde guerre froide dans laquelle le monde s'engouffre. Devant un parterre de personnalités asiatiques, il a souligné que le problème principal n'est pas la situation en Ukraine, mais l'organisation unipolaire du monde. Il a donc plaidé pour une nouvelle organisation des relations internationales basée sur le respect mutuel tel que défini par les 5 principes de la coexistence pacifique énoncés par l'Indien Jawaharlal Nehru et le Chinois Zhou Enlai en 1952-54. Puis placé en préambule de la Constitution chinoise et les 10 principes de la conférence de Bondag de 1955. 5. S'appuyant sur un ancien philosophe chinois, il a fait remarquer que la stabilité apporte la prospérité à un pays tandis que l'instabilité conduit un pays à la pauvreté. Puis il a souligné que tous devaient ensemble préserver la paix en Asie et renforcer leur solidarité autour du partenariat économique régional global de 2020. Enfin, faisant allusion au principe gagnant-gagnant des anciens empereurs chinois, il a invité à développer l'unité politique du continent dans sa diversité. Aussi a-t-il encouragé les nations de l'ASEAN, dont la Chine ne fait pas partie, à renforcer leur unité politique et à protéger leur neutralité. Berne met son veto au transfert vers l'Ukraine de munitions produites en Suisse. Attachée à sa neutralité, la Suisse a pourtant sanctionné la Russie pour, entre guillemets, son invasion de l'Ukraine, en prenant les mêmes mesures que l'Union européenne UE, ce qu'elle s'était jusqu'à présent gardée de faire, notamment après l'annexion de la Crimée. Ces sanctions visent notamment à interdire toute exportation de matériel militaire et de sécurité à geler, les avoirs des proches du Kremlin et à fermer l'espace aérien suisse aux avions russes, poursuit le média français. L'attaque militaire sans précédent perpétrée par la Russie, poursuit la source française, contre un État européen souverain, a incité le Conseil fédéral à modifier. Sa pratique actuelle en matière de sanctions avait justifié le gouvernement suisse, assurant faire ce pas avec conviction, de manière réfléchie et sans équivoque. Cependant, il n'est pas question, a priori, d'aller plus loin. Ainsi, alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est sous pression pour livrer des armements lourds à l'Ukraine, Berne a refusé d'accorder à l'Allemagne l'autorisation de livrer aux forces ukrainiennes des munitions produites en Suisse. C'est en effet ce que révèle le journal Sonntag Zeitung dans son édition du 24 avril. Les demandes allemandes ont été instruites par le secrétaire d'État à l'économie, Seco, et celui-ci a motivé son refus en mettant en avant la neutralité suisse à la législation sur le matériel de guerre. Et cette décision expliquerait la raison pour laquelle Berlin n'a pas pu expédier des véhicules de combat d'infanterie Marder en Ukraine, écrit OPEX. Les deux demandes de l'Allemagne ont reçu une réponse négative en référence à la neutralité suisse et aux critères de rejet obligatoire de la législation sur le matériel de guerre, a ainsi déclaré un porte-parole du SECO, législation qui ne lui permet pas de livrer des armes dans les zones de conflit. Cela étant, le type de munitions concernées n'a pas été précisé et le SECO n'a pas expliqué en quoi elle serait liée à une possible livraison des Marder. Pour rappel, ces blindés sont armés d'un canon Rheinmetall MK-20RH-202 de 20 mm, d'un lance-missile anti-char Milan et d'une mitrailleuse MG3 de 7,62 mm. Reste que dans cette affaire, l'Allemagne a été prise à son propre jeu, étant donné que, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle avait bloqué le don de canons des 30 que voulait faire l'Estonie aux forces ukrainiennes. Pour quasiment les mêmes raisons qui lui a opposé la Suisse pour les munitions, selon le média français. Cependant, la neutralité n'interdit pas de livrer des armes à un pays victime d'une agression militaire. La Finlande et la Suède, membres de l'Union européenne mais pas de l'OTAN, ont ainsi fourni des armements à l'Ukraine, écrit OPEX 360. Une décision historique pour Helsinki, avait souligné Sanna Marin, la chef du gouvernement finlandais.